Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et oui, au cœur de l'histoire, c'est le nom du nouveau rendez-vous que nous donne Franck Ferrand tous les jours à 13h30 sur Europe 1, bien entendu. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve. Et vous aurez vécu si vous avez aimé.
C'est magnifique, mais je crois que ce n'est pas de vous. Hein.
Non, c'est de Musset, évidemment. Nous allons aujourd'hui, à notre façon, célébrer le bicentenaire de ce charmant poète. Charmant et génial, c'est le moins qu'on puisse dire.
Tout à fait. Alors, si chez vous, vous avez des révélations à nous faire sur Alfred de Musset, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail à l'adresse d'Europe 1, www.europe1.fr, mais aussi sur la page Facebook de l'émission.
Et c'est moi, vieil enfant du doute et du blasphème, qui vous écoute et pense, et vous répond ceci, oui, l'on vit autrement, mais c'est ainsi qu'on aime.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Alors ça c'est pour Julia qui est privilégiée, j'ai sous les yeux un petit portrait que le jeune Musset, à la mine de plomb, a tracé lui-même dans le coin d'une lettre adressée à une jeune fille qu'il aimait et qui d'ailleurs s'appelait Aimée Dalton, nous la croiserons dans un instant. Sans vouloir vous frustrer, je dirais seulement que c'est un croquis, mais alors sublime. De profil, les yeux fermés, le bas du visage caché par une épaule, les cheveux sont longs, bouclés, la barbe naissante, les cils effilés, la bouche voluptueuse, c'est un des plus jolis autoportraits que j'ai jamais vus, comme si Musset, en se dessinant lui-même, avait dessiné la jeunesse. La grande chance de Musset, disait un de ses anciens biographes, c'est d'avoir exprimé avec bonheur les sentiments de la jeunesse de son temps et parmi eux, quelques-uns des sentiments de la jeunesse de toujours. Gaieté, esprit, ardeur de vivre, affre et tourment du cœur, ce sont les tribulations et en particulier les tribulations amoureuses d'un jeune homme que je vais vous raconter aujourd'hui. Grand soleil donc sur cette émission, comme sur une grande partie de la France, mais parfois soleil noir. Vous savez, Alfred de Musset, le brillant poète aristocrate, un peu débauché, mais tellement inspiré, Alfred fait partie de ces talents précoces dont la valeur n'attend pas le nombre des années, comme dirait mon cher Corneille. Il n'a pas 20 ans quand sont publiés les Contes d'Espagne et d'Italie. Il en a tout juste 20 quand sa première pièce est mise en scène à l'Odéon, s'il vous plaît. Sauf qu'à ce moment précis, on est le 1er décembre 1830, eh bien, patatras. Je crois pas me tromper beaucoup en disant que la vie d'Alfred de Musset va se trouver littéralement accidentée par cet échec terrible qu'il subit à l'âge de 20 ans. À l'époque, il est déjà lancé dans la capitale. Il tient le rôle mondain du jeune dandy dans le salon de Charles Nodier à la bibliothèque de l'Arsenal, ce qu'on appelle le cénacle romantique, où l'on trouve des gens comme Vigny, comme Sainte-Beuve ou bien sûr Victor Hugo. Eh bien, évidemment, pour Alfred de Musset, c'est une publicité. Et c'est avec cette aura, si vous voulez, qu'il livre aux Parisiens sa première pièce de théâtre. Il a donc 20 ans, La Nuit Vénitienne. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la comédie en question n'est pas vraiment mûre. Et pire que ça, la peinture des décors n'est pas vraiment sèche. Ce qui fait que le soir de la première, l'héroïne va laisser traîner sa belle robe bien blanche le long d'une belle barrière bien verte. Je vous laisse imaginer le résultat. Le fou rire s'empare de la salle. Il balaie les derniers scrupules du public et du même coup, il balaie les espoirs de Musset de faire carrière au théâtre. Pourtant, il aime ce genre théâtral, Musset. Et il ne va pas y renoncer si facilement, simplement, maintenant il écrira des pièces qui sont destinées à être lues et non pas jouées. Elles seront publiées dans la Revue des Deux Mondes sous un très joli nom, un spectacle dans un fauteuil. En attendant, si vous voulez avoir une chance de rencontrer Musset désormais, c'est plus chez Charles Nodier qu'il faut aller le chercher. C'est dans ces espèces d'établissements, ce qu'on appelle les cafés, qui restent ouverts très tard et qui, sous le règne de Louis-Philippe, font la gloire des boulevards. Des boulevards qui... C'est une des autres grandes innovations de l'époque, sont éclairées grâce au tout nouveau réverbère. Des boulevards qu'il faut imaginer encombrés de fiacres, de landaus, de broughams, ces espèces de voitures dont la mode nous vient d'Angleterre, et donc de chevaux. Ces boulevards où s'alignent les théâtres, les salles de concert, les restaurants, encore une nouveauté, et bien sûr les cafés. Café de Paris, Café Tortoni, surtout réputé pour ses glaces et ses sorbets, Café Hardy, C'est là que nous allons retrouver notre jeune auteur boudé du public. C'est quelque chose, vous savez, le café Hardy, c'est véritablement le symbole de son époque. C'est le seul vrai concurrent du café riche. On dit à cette époque qu'il faut être riche pour aller chez Hardy et Hardy pour aller chez riche. Il faut imaginer des vitrines magnifiques, les plus belles de la capitale, et puis un décor renaissance complètement romantique. On est en pleine époque du goût pour l'histoire, du retour du Moyen-Âge, de la Renaissance, des boiseries à perdre la tête, et puis quelle clientèle ! C'est que les clients chez Hardy peuvent choisir eux-mêmes les morceaux que le patron fait cuire sur le grill, le plus fameux grill de la capitale. Tout ça nous donne envie de parler de gastronomie, de restaurant. Julia, c'est ce qu'on fera demain.
Avec grand plaisir.
Demain, on parlera de la naissance des restaurants, de la gastronomie française et tout ça. Mais voyez, c'est une sorte, déjà à travers ce café, café Hardy, c'est une sorte d'antichambre de la gastronomie que nous empruntons. Alors, il faut rendre à César ce qui lui appartient, toute cette description des boulevards parisiens. Je l'emprunte à la biographie très inspirée que Gonzague Saint-Brice vient de publier sur Alfred de Musset. Gonzague sera mon invité tout à l'heure dans la deuxième partie de notre causerie. Alors on est chez Hardy et sur la grande banquette d'angle sous les miroirs éblouissants se sont assemblés toute une bande de jeunes dandys. Il y a là Roger de Beauvoir, il y a Alfred Tattet, ils sont là, petits cigares aux lèvres, impeccablement sanglés à l'anglaise dans leurs petits gilets de soie ivoire, gants beurre frais, canne à pommeau d'argent rutilant. Alfred de Musset les rejoint. Alors il porte lui aussi l'habit noir des plus cintrés, la cravate, le gilet blanc, le catleya, la boutonnière. Grande époque d'élégance, hein, les dandys tiennent le haut du pavé à Paris sous la monarchie de Juillet. Alfred de Musset a ces espèces d'yeux bleus de myope, vous savez, qui ont toujours l'air amusés de tout ce qu'il voit. Il est bien décidé à défier ses amis au billard, c'est un jeu où il excelle. Il va essayer d'oublier ainsi ses tracas. Je devrais peut-être vous le préciser, ce sont bien sûr des tracas sentimentaux. Depuis quelques mois, depuis son retour d'Italie en avril 1834, tout est compliqué dans la vie d'Alfred. Là-bas, vous le savez, il a vécu la plus orageuse des passions avec George Sand, qui est son aîné de 6 ans. Alors c'est elle, dans un premier temps, qui est tombée malade en Italie. Puis Alfred, alors à ce moment-là, Alfred l'a pas mal trompé. Hein. Puis lui, il est tombé malade à son tour, il a dû s'aliter à Venise. Et vous savez qu'elle est devenue la maîtresse du médecin d'Alfred, Pietro Pagello. Pendant près d'un an, par la suite, leur liaison n'a fait que se dégrader, avec tout de même des moments de grâce. Il a beaucoup écrit, Alfred, pendant cette période, et notamment Lorenzo Ascio, qui sera peut-être son chef-d'œuvre. Alfred et George Sand ont rompu en mars 1835. Et depuis, eh bien, il a volé d'alcôve en alcôve, notre bel Alfred. Il est devenu amoureux de Caroline Jobert, la femme d'un juriste très austère, la sœur d'un pair de France, Edmond Daltonché. Je dis Dalton, c'est une vieille famille irlandaise, mais on avait coutume à l'époque de prononcer à la française. Pour une fois, Dalton d'apostrophe Alton. Pour une fois, c'est une liaison qui va bien évoluer. Caroline va devenir en quelque sorte... le coach, c'est un peu un anachronisme. Elle devient la marraine dans le monde, si vous voulez. La marraine d'Alfred au sein de la République des Lettres. Et c'est elle qui va lui présenter, en mars 37, sa jeune cousine, Aimée Irène Daltonché, que tout le monde appelle Aimée Dalton. Son père, le général Alexandre, est un baron d'Empire qui descend donc de cette grande famille irlandaise. La jeune Aimée est passionnée par les arts, par le théâtre, par la littérature, ça tombe bien, nous y voilà. Elle connaissait Alfred de Musset de réputation bien avant que Caroline ne le lui présente. En vérité, elle est folle de la confession d'un enfant du siècle qui vient de sortir. C'est un bon départ, ça, pour une liaison. Est-ce que c'est un bon départ pour une aventure? Peut-être même pour une grande histoire? Eh bien, c'est ce que nous allons voir.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant.
Dans le cœur de l'histoire sur Europe 1, on s'intéresse aujourd'hui à la vie et aux amours nombreuses d'Alfred de Musset, Franck Ferrand.
Oui, vous avez bien accordé amour, qui fait partie de ces rares mots qui au pluriel deviennent féminins en français. C'est très beau d'ailleurs. Il y a délice également, il y a orgue. Ah. Un orgue, de grandes et belles orgues. Alors, nous allons faire, si vous voulez, brièvement un saut dans le temps de plusieurs décennies jusqu'en 1881. Il faut imaginer en 1881 une vieille dame qui est veuve depuis peu et qui se présente à la Bibliothèque nationale. C'est encore à l'époque rue de Richelieu. C'est même pour longtemps rue de Richelieu. Elle a l'intention, cette vieille dame, de faire copier, en vue de faire un dépôt anonyme, 79 lettres d'amour que lui avait envoyées 45 ans plus tôt le célèbre, on devrait dire désormais le mythique Alfred de Musset. Cette merveilleuse correspondance sera publiée 30 ans plus tard, en 1910, par les soins de Léon Séché. Et c'est en grande partie grâce à cette correspondance que l'on connaît dans ses moindres détails la belle histoire d'amour entre Aimé, la bien nommée, et Alfred. Parce que vous l'avez compris, la vieille dame en question, c'est Aimé Dalton sur le soir de sa vie. Tout avait donc commencé en 1837. En 1837, Alfred, je vous ai dit, sort d'une liaison très tumultueuse avec George Sand. Il est tombé entre-temps dans les raies, comme on dit alors, de Caroline Jobert, née Dalton. Et c'est donc cette Caroline qui lui présente une de ses jeunes cousines. Alors, c'est assez étrange parce qu'Alfred de Musset adore les brunes aux yeux sombres. C'est un homme qui aime les femmes, on va dire, méditerranéennes. Et le voilà qui sent d'un seul coup son cœur bondir, son cœur s'emballer pour une blonde aux yeux bleus. Il précise, non pas de ce bleu clair et indécis qui est tour à tour gris ou verdâtre, mais un bleu vraiment azur. Le front blanc, les joues roses, un nez de statue grecque, ça y est déjà, il en est fou. Et cette bouche, je cite toujours Alfred de Musset, une bouche vermeille, ni trop grande ni trop petite, laissant passer entre deux rangées de perles une haleine fraîche et voluptueuse. Dès le soir de leur rencontre, il la voit transie, cette jeune aimée. Il faut dire encore une fois qu'elle connaissait Alfred de Musset, elle avait lu La Confession d'un enfant du siècle, elle était complètement, elle était fan, si je puis dire, avant même de le rencontrer. Et quand elle le voit, alors évidemment, elle est totalement séduite, presque autant que lui. Et au moment où elle s'en va, il la voit se couvrir d'une sorte de capuche de satin blanc. Et le lendemain matin, il lui envoie des vers. On a la chance à l'époque d'avoir une poste qui passe 3 fois par jour à Paris. Il lui envoie des vers qui parlent du charmant petit moignon blanc et du charmant petit moignon rose. C'est elle. Est-ce qu'elle va répondre ? Alfred de Musset est habitué évidemment à ce qu'un certain nombre de ses avances ne donnent aucune suite. Eh bien là, oui, surprise, elle répond. Et non seulement elle lui répond, mais elle lui envoie un cadeau. C'est une très jolie boîte. Et quand il ouvre cette boîte, il se rend compte qu'à l'intérieur, il y a une magnifique plume. Ah, voilà, une jeune femme qui s'intéresse à son art autant qu'à lui, qui veut qu'il écrive, une jeune femme qui veut l'inciter à se mettre à sa table de travail. Il faut dire que lors de leur première rencontre, ils n'ont eu qu'une conversation, c'est la paresse légendaire d'Alfred de Musset qui, lui a-t-il confié, l'empêchait de se mettre à sa table de travail. Eh bien, allez-y, mon Alfred, écrivez puisque vous êtes écrivain. Autre cadeau, quelques jours plus tard, il reçoit une bourse en filet qu'elle a elle-même tissée de ses propres mains. Et dans la bourse, il y a un charmant billet qui dit « Quel accueil vous fera-t-on, ma chère petite bourse ? Direz-vous tout le plaisir qu'on a eu à vous faire ?» Ça y est, elle est amoureuse, elle aussi. Évidemment, Alfred va répondre. Voilà ce qu'il écrit. « La main me tremble en vous écrivant. Recevez donc cette lettre comme j'ai reçu votre envoi, avec étonnement peut-être, mais dites-vous que c'est un cœur vrai que vous avez fait battre. Oui, il y a quelque amitié pour moi dans cette petite main qui a fait ce petit travail si fin, si précieux. Il y a une pensée de vous sur chacun de ces petits fils déliés. Il y a du moins un regard sur chacun d'eux. Votre regard. » Et évidemment, Alfred enchaîne. « Quand reviendrez-vous ? Un mot dur de vous me ferait plus de mal que le reste m'a fait de bien, car je vous connais maintenant et je vous aime déjà, et ni vous, ni moi, ni pouvons, ni vous, ni moi, n'y pourrons rien. » Il a évidemment l'art de faire sa cour, Alfred de Musset. Pour lui, c'est un moment complexe en plus, parce que il était prêt normalement à partir pour l'Espagne. Il devait faire un grand voyage en Espagne. C'était prévu. Et puis, évidemment, c'est le moment où il tombe amoureux. Alors, est-ce qu'il va accepter la carrière diplomatique, s'en aller dans ce poste qu'on lui propose en Espagne, ou est-ce qu'il va rester ? Finalement, Il reste. Il décide de renoncer à l'Espagne pour aimer. « Êtes-vous bien sûr de m'aimer ?» lui demande-t-elle. Et il répond « Oh, je crois vous aimer, enfant. Et je ne me trompe pas. » Elle lui dit qu'elle ne se porte pas vraiment bien, qu'elle est obligée de passer ses journées sur une chaise longue. Alors il lui envoie un billet. Vous savez que c'est cette époque extraordinaire où on s'envoie constamment des billets doux. « Votre santé, dites-vous, écrit Alfred de Musset, est un obstacle invincible. Je n'en connais pas à l'amour. Et une chaise longue n'est pas un si vilain meuble pour en dire du mal. » Évidemment, Aimé Dalton se méfie un peu de ce personnage à la réputation plus que sulfureuse, qui a la réputation littéralement d'un tombeur. Mais en même temps, comment faire pour lui résister ? Faire de grands rêves et vouloir les réaliser est la première, l'inévitable condition des grands cœurs, lui écrit-il. La première expérience aimée consiste à souffrir. Elle consiste à trouver que les rêves absolus ne se réalisent jamais ou que réalisés, ils se flétrissent et meurent au contact des choses de ce monde. Il ne lui cache pas ce qu'à ses yeux même, leur liaison doit devenir. Sauf qu'il n'a pas pensé à une chose. Il n'a pas compris d'emblée, Alfred, que l'ambition d'aimer, c'est d'une part de le remettre au travail, de le remettre dans le droit chemin, si l'on peut dire, de lui redonner l'envie de travailler, de créer son œuvre, pourquoi pas même de revenir au théâtre. « Tu peux me trahir, m'humilier à jamais », lui écrit-elle. « Tu ». En parenthèse, hein, elle se met à le tutoyer. Alors là, ça c'était l'erreur de sa vie. Évidemment, il en profite et il lui dit « Mais qu'attendez-vous? Si vous ne voulez pas venir, baisez au moins un petit morceau de papier et envoyez-le-moi sous enveloppe. Mais si vous m'aimez, vous viendrez. » Elle lui envoie seulement le petit morceau de papier et il lui dit « Oh, j'aurais aimé le dévorer s'il était permis de faire disparaître en l'avalant une chose si précieuse. » Donc elle veut le remettre au travail, elle le motive si vous voulez. Et d'autre part, elle a bien l'intention de mener une existence, je dirais pas rangée, mais elle voudrait, pour une fois, lui permettre de vivre un amour apaisé, de vivre tranquillement, de vraies rencontres, un véritable amour. Oh, dans un premier temps, elle ne lui demande pas de l'épouser, mais elle lui demande seulement de se calmer. Vous savez que chez lui, c'est difficile, il est tourmenté, il y a quelque chose de très noir, toujours de très difficile chez Musset. On est exactement à l'époque où il écrit « Nuit d'octobre ». Eh bien, précisément, comme aujourd'hui, c'est la journée Serge Gainsbourg sur Europe 1, je vous propose d'écouter ce poème tourmenté s'il en est, remis en musique par Serge Gainsbourg.
Honte à toi qui la première m'a appris la trahison, et d'horreur et de colère m'a fait perdre la raison, et d'horreur et de colère m'a fait perdre la raison. Honte à toi, femme à l'œil sombre, dont les funestes amours ont enseveli dans l'ombre mon printemps et mes beaux jours. Ont enseveli dans l'ombre mon printemps et mes beaux jours. C'est ta voix, c'est ton sourire, c'est ton regard corrupteur qui m'ont appris à maudire jusqu'au semblant du bonheur. Qui m'ont appris à maudire jusqu'au semblant du bonheur. C'est ta jeunesse et tes charmes qui m'ont fait désespérer. Et si je doute des larmes, c'est que je t'ai vu pleurer. Et si je doute des larmes, c'est que je t'ai vu pleurer. Honte à toi, j'étais encore aussi simple qu'un enfant. Comme une fleur à l'aurore, mon cœur s'ouvrait en t'aimant. Comme une fleur à l'aurore, mon cœur s'ouvrait en t'aimant. Certes, ce cœur sans défense tu sens peine être abusé, mais lui laisser l'innocence était encore plus aisé. Mais lui laisser l'innocence était encore plus aisé. Honte à toi, tu fus la mère de mes premières douleurs, et tu fis de ma paupière jaillir à la source des pleurs. Et tu fis de ma paupière jaillir à la source des pleurs. Elle coule, sois-en sûr, et rien ne la tarira. Elle sort d'une blessure qui jamais ne guérira. Elle sort d'une blessure qui jamais ne guérira. Mais Mais dans cette source amère, du moins je me laverai, et j'y laisserai, j'espère, ton souvenir abhorré. Et j'y laisserai, j'espère, ton souvenir abhorré. Et j'y laisserai, j'espère, ton souvenir abhorré.
La nuit d'octobre, Serge Gainsbourg sur Europe 1 dans le cadre de la journée spéciale que nous lui consacrons toute cette journée.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant.
Jusqu'à 14h30, vous écoutez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, celle du poète Alfred de Musset, aujourd'hui Franck Ferrand.
Et la première rencontre, enfin pas tout à fait la première rencontre, on peut dire l'histoire d'amour entre le bel Alfred et la belle Aimée, avait commencé d'une manière tout à fait théâtrale, parce que à cette époque-là, Alfred de Musset vivait chez rue de Grenelle, mais il vivait chez sa mère, avec son frère, sa sœur, trois domestiques. C'était pas très facile. Et où nous verrons-nous, lui demandait-elle. Mais lui n'avait pas les moyens de la recevoir ailleurs. Alors il lui avait dit, venez simplement très très tôt le matin. Mais comment ça? Oui, venez dès 8h, ô bel ange, lui dit-il. Quel jour, quelle pensée, tes lettres, ça y est, il se tutoie, tes lettres me rendront fou, adieu, mille baisers, sois bien à l'heure. Et effectivement, on la voit se lever extrêmement tôt, prendre un fiacre, traverser Paris, arriver très tôt quand toute la maisonnée est encore endormie, pour rejoindre à travers la salle à manger dangereuse la chambre d'Alfred. Ils vont par la suite se retrouver dans une petite garçonnière qu'Alfred va louer rue Tronchet. En tout cas, il va la louer tant qu'il aura les moyens de le faire, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a peu de moyens. Et ce sont des rencontres évidemment très exaltantes, très, très merveilleuses pour elle. Pour lui, c'est presque déjà la fin. C'est ça qui est terrible avec Alfred de Musset. Il avait, avec Aimé Dalton, la possibilité de rencontrer quelqu'un qui était une âme sœur, qui pouvait l'accompagner, qui pouvait le conduire vers la réalisation de lui-même et vers l'aboutissement de son œuvre. Eh bien non, il commence déjà à la tromper le plus secrètement possible, mais c'est ainsi. Il regarde déjà du côté de la comédienne Rachel, notamment. Il est déjà attiré ailleurs. Et elle le sent très bien aimé. Elle comprend que non seulement Alfred ne l'épousera jamais, mais qu'il est l'instabilité fait homme. Il a beau la couvrir de toutes les jolies appellations possibles, parce que alors ce n'est pas l'imagination qui lui manque. Minouche l'appelle-t-il, poupette, nymphe, poupette, oh ma nymphette, etc. Elle comprend qu'il n'est pas fait pour la moindre habitude. La routine lui fait littéralement horreur. Et cette habitude, lassitude, dit-il, l'aventure traîne encore. Donc, vous voyez, il a peur, en quelque sorte, de lui-même. Il ne veut pas entrer, il ne veut pas s'installer du tout dans une forme d'habitude. Et elle va avoir la très grande intelligence. Décidément, quelle délicatesse, quel raffinement, quelle intelligence chez cette jeune femme. Elle va avoir l'intelligence de faire évoluer d'elle-même la relation peu à peu, quasiment sans orage. On est très loin, il y a quelques disputes entre eux, mais on est très loin de l'histoire avec George Sand, évidemment. Avec quasiment sans orage, elle va faire évoluer ça vers une... peut-être pas de l'amitié, mais disons qu'ils se quitteront bons amis. Ce qui est extraordinaire, c'est de penser que un peu plus tard, après la mort d'Alfred de Musset, elle épousera son frère Paul. Voyez un peu comme les choses s'enchaînent. Vous vous rappelez cette petite bourse en filet qu'Aimé avait offerte au tout début à son amant, qui n'était d'ailleurs pas encore son amant? Eh bien, elle donne au poète le thème d'une petite pièce qu'il intitule « Le Caprice » et qui paraît dans la revue des Deux Mondes. Or, cet écrit, sans prétention, mais vous savez, les écrits de Musset sont toujours dépourvus de prétention, ce caprice va jouer dans la vie d'Alfred un rôle inattendu et un rôle incroyable. Un peu grâce à Aimé, si vous voulez, à la manière d'un talisman, en effet. 10 ans plus tard, une comédienne de renom, Madame Allan Despréaux, se trouve à Saint-Pétersbourg pour une série de représentations au théâtre Michel. Elle entend une pièce en russe qu'elle trouve charmante. Elle demande une traduction, lui dit « mais c'est pas peine de la traduire, c'est le caprice de Musset ». Et comme Madame Allan Despréaux était en train de devenir sociétaire du théâtre français, en rentrant à Paris, elle demande à faire ses débuts dans cette pièce de Musset. Voilà donc Musset, après son très lointain maintenant échec sur la scène de l'Odéon, qui fait un retour sur une scène parisienne, sur celle de la Comédie française. La première a lieu le 27 novembre 1847 et Théophile Gautier identifie aussitôt un grand événement littéraire. Du coup, Musset redevient à la mode, un peu grâce à Aimé. Les pièces de théâtre vont être mises en scène, celles qui avaient pourtant été simplement écrites pour l'édition. Il ne faut jurer de rien, Le Chandelier, Les Caprices de Marianne, On ne badine pas avec l'amour. Et bientôt, Alfred de Musset entrera à l'Académie française, un peu grâce à Aimé. Ainsi, la correspondance amoureuse d'Alfred et d'Aimé nous a permis de découvrir ce qui a été en quelque sorte la rédemption du poète. Un trésor, littéralement, de sentiments qu'Aimé a fait précéder de tout un préambule dans lequel elle raconte elle-même l'extraordinaire moment. Elle dit que c'est le plus beau moment, sans doute, de sa vie. Eh bien, comme un ultime rebondissement, un coup de théâtre, si vous préférez, laissez-moi vous dire que lorsque, après la mort de son mari Paul de Musset, elle-même est morte en novembre 1881. Elle a été enterrée au Père Lachaise, avec son mari bien entendu, mais à quelques pas seulement de la tombe d'Alfred. Quel dommage qu'on n'ait pas osé les réunir tous les trois sous le célèbre saule du poète.
C'était le récit d'au cœur de l'histoire et on passe à la partie magazine sur Europe 1.
Et oui, je vous ai promis depuis tout à l'heure que aurions un grand romantique avec nous, quelqu'un qui est la personne qu'il faut rencontrer pour Musset, qui d'ailleurs vient de publier une très belle biographie chez Grasset. C'est Gonzague Saint-Brice, il va être avec nous là juste après le flash de 14h.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Au cœur de l'histoire qui s'intéresse aujourd'hui à Alfred de Musset, l'écrivain et journaliste Gonzague Saint-Brice nous a rejoint sur Europe 1 pour en parler, Franck.
Cher Gonzague, merci d'être avec nous dès cette première semaine. Ce qui est amusant et fort, c'est que vous avez, vous, Gonzague Saint-Brice, eu un rôle personnel et déterminant dans la carrière littéraire, alors non pas d'Alfred de Musset, mais bien de Serge Gainsbourg.
Oui, on était très liés et il me parlait souvent de sa carrière de peintre raté. Il avait adoré Dali, mais il avait aussi cette passion d'écrire et il me faisait lire ce qu'il écrivait. Et son premier livre, il m'a demandé de lui trouver un éditeur. Ça s'appelait Evgenin Sokolov et il me dit « Écoute, je veux la Rolls de l'édition NRF, ça voulait dire la fameuse collection blanche de Gallimard, NRF. Et donc, je l'ai mis en contact avec Gallimard et le livre a été publié chez Gallimard. Mais il me prononçait toujours des phrases de Musset. Il connaissait tout sur Musset, comme vous l'avez
dit
tout à
l'heure. Mais il y a beaucoup d'artistes qui, aujourd'hui, s'inspirent directement de Musset. Il était encore très populaire, plus que jamais, j'ai envie de dire.
Tout à fait. Aujourd'hui, Frédéric Becbédé est un passionné de Musset. Michel Houellebecq trouve que c'est le plus grand des poètes. Vous avez Patrick Bruel qui dit très très bien les poèmes de Musset. Et puis, je viens d'avoir au téléphone Alexandre de Musset, qui est le descendant direct du poète à qui j'ai dédié mon livre. Et il me signale une pièce de théâtre formidable qui vient de commencer au Théâtre Saint-Martin.
Au Petit Saint-Martin, oui.
Au Petit Saint-Martin.
C'est la dernière nuit, c'est ça, de Sang des Musset.
De Sang des Musset. C'est écrit par Jean-Luc Moreau.
Alors, votre propre livre, Alfred de Musset chez Grasset, Gonzague, s'ouvre sur un scoop, sur quelque chose de très extraordinaire. Moi, j'ai parlé tout à l'heure de ce petit autoportrait dans un coin d'une lettre à Aimé Dalton. Là, c'est une photographie d'Alfred de Musset que vous nous proposez en exclusivité.
Tout à fait. Je crois que chaque fois qu'on fait une biographie, il faut apporter quelque chose de nouveau. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré la dernière Madame Sand et elle m'a donné ce cliché extraordinaire. Musset, on l'avait vu en peinture dans le Lagarde et Michard, on l'avait vu dans les médaillons des hommes illustres de David d'Angers.
Oui, il y a énormément de reproductions, mais là, c'est une photographie.
C'est une photographie et d'un âge très ancien, puisque c'est un férotype. Le férotype succède au daguerrotype. Et là, on voit quel beau mec c'était. C'était
47,
un canon.
47, la photo. Donc, c'était un canon, mais l'époque dont on parle, ce que je viens de raconter là sur ses amours avec Aimé Dalton, c'est encore 10 ans plus tôt. Donc, on ose imaginer ce que ça devait être. Mais c'est vrai que, notamment, le regard d'Alfred de Musset est une chose incroyable sur cette photographie. Une sorte comme ça de regard envoûtant, presque magnétique.
Voilà, parce que c'est un regard sombre qui émane des yeux clairs, comme si dans cette photographie en noir et blanc, la couleur du talent était celle de la teinte de la mélancolie. Et en même temps, c'est un visage d'ange scandaleux dans ses débauches et si pur dans ses lignes.
Alors, vous étiez bien placé pour écrire une bio d'Alfred de Musset, puisqu'on peut dire que votre famille maternelle, Gonzague, la famille Mam, a été le premier éditeur d'Alfred de Musset.
Tout à fait. Il a fait une traduction de Thomas de Quincey sur le mangeur d'opium. Et ça a été la première. Mam à Tours a été le premier éditeur de Musset.
Donc vous avez des liens, on peut dire, familiaux. Vous avez également des liens spirituels, puisque vous êtes, vous, le fondateur du mouvement des nouveaux romantiques. Ça a joué un rôle important, ces nouveaux romantiques. Dites-nous un mot de ça, parce que vous vous inspiriez à l'époque directement de cette époque et de ces personnages-là, dont Alfred de Musset.
Tout à fait, parce qu'en fait, les révolutions ratées font les romantismes réussis. Mai 1848 a fait Musset et mai 68 nous a fait, parce que nous avions 20 ans. Alors j'avais créé l'Académie romantique, il y avait Frédéric Mitterrand, il y avait Patrick Poivre d'Arvore, il y avait Brice Lalonde, il y avait Étienne Rodagil, il y avait Michael Denard, il y avait Francis Huster. En fait, ils ont tous réussi, tous sauf moi.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle « fishing for compliments ». Vous avez aussi créé donc cette espèce de cénacle comme Alfred de Musset avait le sien. Il était un peu un ange, hein. Il était un personnage à part au sein de tous ces romantiques de l'époque. C'était vraiment, il y a un côté comme ça, comme dirait Victor Hugo, lorsque l'enfant paraît, hein. C'est une apparition que celle d'Alfred de Musset, hein.
Tout à fait, il était très beau. Déjà, quand il était petit, quand il était dans un carrosse, les gens dans la campagne, enfin dans une voiture à cheval, croyaient que c'était l'aiglon, enfant. Et puis,
s'arrêtait pour le regarder comme si c'était le... Ça, c'est quand il était vraiment petit.
Petit. Ouais. Et après,
D'ailleurs, il a vu l'empereur. Vous racontez ça dans la bio au début, c'est assez étonnant. Au moment du retour de l'empereur, au moment des 100 jours, on voit Napoléon qui reste un long moment au balcon des Tuileries pour saluer la foule. Et il est là, lui, il a 4 ans, mais il est là avec son frère. Et tous les deux, ils regardent cet empereur. Ça restera pour eux une image qui les marquera à vie. Il faut dire que la famille d'Alfred de Musset, quoiqu'une famille noble, une famille qui aurait dû être royaliste, était avant tout et farouchement bonapartiste.
Oui, la mère a pleuré le jour de la bataille de Waterloo. C'était des aristos très ouverts. Et lui aussi, ça l'a frappé, puisque un des plus beaux textes dans la Confession d'un enfant du siècle, c'est cette génération avec les pères qui arrivent de la guerre avec des décorations sur la poitrine.
Et il y a ce côté, il y a cette espèce de pulsion romantique dans toute la vie de Musset. On a vu tout à l'heure avec cet amour malheureux avec Aimé Dalton qui n'est pas capable en fait de vivre une relation apaisée et tranquille. Il lui faut toujours des mouvements, il faut toujours des choses un peu dures. Il aime en quelque sorte les coups et les bosses, même s'il s'en défend à longueur de lettres et à longueur de pièces. Les personnages qu'on voit d'ailleurs dans ces pièces romantiques sont des personnages qui lui ressemblent beaucoup, hein. Il y a du fantasio dans Musset, si l'on peut dire. Et on se rappelle, évidemment, d'ailleurs, on va écouter, si vous voulez, un extrait du célèbre film de Diane Curis en 1999, Les Enfants du siècle. On se rappelle ces terribles emportements avec George Sand. Là, il est en train de s'éloigner de George Sand à la demande de George, bien entendu, et il lui écrit une de ses lettres dont il avait le secret.
Dans 4 jours, il y aura 300 lieues entre nous. Pourquoi ne parlerai-je pas franchement? À cette distance, il n'y a plus ni violence ni attaque de nerfs. Si le baiser que nous avons échangé est le dernier de ma vie, sache qu'au moment où la diligence m'emportait, j'ai compris que j'avais mérité de te perdre. Tu m'as dit de partir et je suis parti. Tu m'as dit de vivre et je vis. Mais je suis perdu. Je ne sais plus si je marche, si je respire, si je parle. Oh, mon ange, sois heureuse. Et je le serai. Je t'ai si mal aimé. Je suis arrivé à Genève. Je n'ai pas voulu t'écrire avant d'être sûr de moi. Je t'aime encore d'amour, Georges. Et cependant, je suis tranquille. Te prenant à moi, Pagello m'a pris toute la richesse de ma vie. Et pourtant, je l'aime comme s'il me l'avait donnée. N'est-ce pas la chose la plus absurde que d'aimer son rival? Écris-moi.
Écris-moi, dit la superbe voix de Benoît Magimel. C'était donc dans le film de Diane Curis, Les Enfants du siècle, en 1999. Nous retrouvons non seulement Alfred de Musset, mais Gonzague Saint-Brice dans un tout petit instant.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Celle d'Alfred de Musset aujourd'hui sur Europe 1. On en parle avec votre invité qui est journaliste et écrivain, le nommé Gonzague Saint-Brice, Franck.
Et Gonzague Saint-Brice qui est aussi et qui a toujours été ce nouveau romantique. Est-ce que quand on est un nouveau romantique, Gonzague, on a des conseils à donner pour savoir aimer?
Alors écoutez, j'aimerais avoir la voix de Serge Gainsbourg pour vous
on
dire.
On l'avait un petit peu, hein, si ça peut vous
dire. Non, la voix, pour vous dire ce qu'il préférait dire de Musset. Après avoir souffert, il faut souffrir encore. Il faut sans cesse aimer après avoir aimé. Mais le meilleur pour donner des conseils...
C'est comme si l'amour était directement une souffrance.
Ah oui.
Il n'y a pas d'amour sans souffrance, c'est pas possible, on est d'accord.
Surtout dans le romantisme.
Hein, c'est ça, ouais. Non, mais je parle là pour Alfred de Musset.
Tout à fait. Mais quand même, il y a une phrase très positive. Écoutez-la bien parce qu'elle concerne chacun de vous. Comment devez-vous vous comporter pour que l'amour soit réussi? Eh bien, il y a un secret. Se voir le plus possible et s'aimer seulement, sans ruse et sans détour, sans honte ni mensonge, sans qu'un désir nous trompe ou qu'un remords nous ronge. Vivre à deux et donner son cœur à tout moment, respecter sa pensée aussi loin qu'on y plonge, faire de son amour un jour au lieu d'un songe, et dans cette clarté, respirer librement. Et ça, c'est très important, c'est la liberté. Pour que l'amour dure, il faut être libre.
Est-ce qu'on
et
peut
ça,
dire,
c'est les romantiques qui le disent.
Est-ce que finalement, avec Aimé Dalton, ce qu'a craint Alfred de Musset, c'était pas justement d'être un peu trop ligoté? Il perdait cette liberté, peut-être. Hein. L'oiseau était en cage, belle
Franck
cage.
Cher Ferrand, mais... vous avez touché dans cette émission mon cœur, parce que mon chagrin, quand j'ai écrit cette biographie de Musset, je me disais, mais... pourvu qu'il ne la lâche pas. C'était le salut de sa vie, Aimé Dalton, c'était sa rédemption. Et il l'a laissé partir. Après, ça a été la décadence pour lui.
Ouais, et ça a été même une forme de perdition, on peut le dire. Hein. On le retrouve dans les tripots en permanence, dans les bordels, dans les cafés jusqu'à des heures infinies. On dit qu'il joue au billard. Il faut imaginer, qu'est-ce qu'il serait aujourd'hui, Alfred de Musset? Il serait une espèce de déjanté
Un pop star dans les avions avec des top modèles.
On le retrouverait au bout de la nuit.
Voilà. Mais vous savez qu'il avait une passion pour le bordel. Alors à un moment, il y a Sainte-Beuve qui lui dit « Je vous ai vu au bordel ». Mais ça lui dit, mais moi aussi, je vous y ai vu.
Par définition.
Mais Sainte-Beuve dit, oui, mais il y a quand même une différence. Moi, je n'y habite pas. Et quand Musset, qui était déjà très abîmé par ses excès, alcool et tout ça, entre à l'Académie française, il est surnommé le chancelant perpétuel. Et le soir de son élection, où est-ce qu'il va donner son dîner? Au bordel.
C'est incroyable.
Et après, vous savez, c'est quelqu'un qui a été marqué. Lui, il a tellement peur de la trahison des femmes. Par exemple, dans la Confession d'un enfant du siècle, souvenez-vous de ce banquet. Il est en face de sa bien-aimée. Oui. Il y a du vin, il y a du bonheur. Et tout d'un coup, il laisse tomber sa fourchette. Il se penche. Et qu'est-ce qu'il voit sous la table? La jambe de sa maîtresse, enlacée dans celle du voisin. Et là, il est obsédé par la trahison des femmes. Et c'est pourquoi il ne veut pas se marier. Et à la fin de sa vie, il y a une jeune bonne sœur qui s'occupe de lui, qui le porte nu dans son bain. Et lui, il a des hallucinations, il ne se souvient plus de qui il est. Et il pose la question, suis-je marié? Il a peur d'être marié, car il pense que s'il est marié, on va le mettre dans une maison de fous. Car c'est quelqu'un qui a des graves problèmes psychiques. Quand George Sand a commencé avec lui, elle a voulu faire un petit stage de sexe pour savoir comment ça allait se passer. Il l'emmène dans la forêt de Fontainebleau et là, elle voit qu'elle a affaire à un dingue qui a des hallucinations dans les rochers de Franchard.
Il a cette espèce de fascination du noir quand même, hein. C'est assez étrange. D'où vient que cet homme qui aime, il aime le soleil, il aime la jeunesse, il aime la beauté, il aime l'amour dans ce qu'il a de plus lumineux, d'où vient-il qu'il passe son temps comme ça toujours dans une sorte d'underground un peu, hein. Il est toujours deux.
Oui, mais c'est quand même quelqu'un qui n'est, c'est un homme de la ville. Vous avez parlé tout à l'heure des faubourgs, mais c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup voyagé. Les contes d'Espagne et d'Italie, il les a fait par son imagination. Bien sûr, il est allé à Venise, mais au fond, pour lui, il n'y a que la capitale. Il n'y a que Paris, la ville lumière. Et après, comme il le dit dans son texte, ce sont les grandes Indes.
Alors nous allons faire un petit tour dans les grandes Indes, si vous voulez. En tout cas, dans une région qui vous est chère, Gonzague, puisque c'est celle de la Loire. Hein. C'est toute cette vallée ligérienne qui est celle de votre famille et de votre cœur, on peut le dire. Il se trouve qu'en ce moment, le Conseil général du Loir-et-Cher présente une exposition qui s'appelle « Alfred, Georges, Victor et les autres ». Ça nous rappelle quelque chose, on est vraiment dans ce cénacle romantique. Et l'exposition en question est présentée à Blois. encore pour quelques temps, jusqu'au 8 mai, si mes papiers sont bons. Et nous avons au téléphone, pour en dire un mot, Olivier de Charsonville, qui est le directeur de la culture au Conseil général du Loir-et-Cher. Bonjour Olivier de Charsonville.
Bonjour Franck Ferrand. Jean-Jacques Saint-Brice.
Bonjour.
C'est vous qui avez eu l'idée de créer cette exposition autour d'Alfred de Musset et de ses amis ?
Alors c'est le Conseil général de Loir-et-Cher qui en effet souhaitait marquer le bicentenaire de la naissance de Musset, mais qui fait aussi écho au bicentenaire de Chopin, au bicentenaire de Schumann, et ceux de 2011 avec Liszt et Gautier. Donc en effet, le président du Conseil général, Maurice Leroy, souhaitait vraiment marquer l'année 2010 et 2011, puisque l'exposition a été inaugurée en 2010, souhaitait marquer le territoire de ce passage de Musset.
Alors,
mais également de bien d'autres.
L'exposition a été inaugurée en 2010 parce que, je ne l'ai pas dit ça depuis le début de l'émission, mais c'est quand même important, le bicentenaire de la naissance d'Alfred de Musset, c'était le 11 décembre dernier.
Exactement.
Et donc, évidemment, nous sommes en plein, en ce moment, dans les célébrations de ce bicentenaire, mais c'était bien au mois de décembre qu'a eu lieu l'anniversaire en tant que tel. Vous avez quel type de public à cette exposition ? Quels sont les gens qui viennent ? Est-ce que, justement, les bohèmes et les déjantés d'aujourd'hui viennent rendre hommage à leur père spirituel ?
Alors, certainement, on ne fait pas d'enquête de moralité, mais en effet, Alfred suscite un intérêt de toute façon de la part des artistes, hein, du monde culturel, puisque c'est un des auteurs de théâtre le plus joué aujourd'hui. Et puis, comme vous le savez, Franck, nous évoquons également Germaine de Staël, qui était au château de Chaumont-sur-Loire. Nous évoquons Georges Sand, évidemment, Alfred de Vigny à Loches, et qui parle certainement aussi au cœur de Gonzague-Saint-Brice. Honoré de Balzac, qui était à Vendôme, qui a passé 9 ans à Vendôme. Marie Dagou, également maîtresse de Liszt et belle-mère de Wagner, qui était aux portes de Tours. Et Albert Stapfer, qui était un des traducteurs de Goethe avec Nerval, et qui résidait à ce moment-là au château de Talcy, donc en Loir-et-Cher. Donc le Loir-et-Cher était certainement un des ciels du romantisme, et c'est pour ça que le président du Conseil général souhaitait que nous évoquions ce grand moment historique qui a marqué notre territoire. Nous avons du coup fait appel à un scénographe qui a monté une exposition qui alterne virtuel et réel. Comme le disait très justement Gonzague tout à l'heure, ces artistes, et Alfred particulièrement, avaient des crises hallucinatoires tout à fait effrayantes, et le scénographe a souhaité évoquer ce monde virtuel dans lequel les artistes romantiques ont vogué, certains avec plus ou moins de douleur ou
d'émotion. Merci beaucoup. Alors, j'espère que cette exposition aura tout le succès qu'elle mérite. On peut la visiter donc à Blois, dans le cadre de cette année Musset. C'est dans un espace qui s'appelle Expo 41, c'est en face du château de Blois, et c'est jusqu'au 8 mai 2011. On peut dire, Gonzague, que cette époque romantique avait quelque chose finalement de très moderne. C'est sans doute pour ça qu'elle nous parle autant aujourd'hui.
Oui, parce qu'on a une idée complètement idiote du romantisme, on croit que c'est des types qui pleurent au bord des lacs. Non, c'est pas du tout ça. Le romantisme, c'est l'énergie. Victor Hugo a dit « Je suis une force qui va ». Et puis c'est un mouvement aussi qui fait semblant d'aller vers le passé pour aller vers le futur. Le romantisme regrette la Renaissance regrette l'Antiquité, mais ce sont deux mouvements qui vont de l'avant.
Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que la Renaissance est un mouvement de redécouverte des formes antiques, des formes classiques, qu'on retrouvera plus tard, à la fin du XVIIIe, dans ce qu'on appelle le néoclassicisme. Un jour, on parlera de ça, et je crois que c'est très passionnant. Mais le romantisme, c'est plutôt le nouveau baroque. C'est l'explosion de toutes les forces. C'est le dépassement, non seulement de soi, mais de tout ce qui peut exister, des formes. On fait tout éclater, n'est-ce
tout
pas ?
Tout en même temps. D'ailleurs, dans la Confession d'un
enfant du siècle, et la musique aussi, bien sûr.
De Musset, et il dit à un moment, je suis dans la rue. Les gens, ils ont des têtes de toutes les époques. Tiens, il y en a un qui a une tête d'Henri IV, tiens, il y en a un qui a une tête de Louis XI. Et en fait, le romantisme, c'est ça. C'est d'abord la pluridisciplinarité. Les artistes font de la musique, du dessin, de la peinture, des textes. Mais en même temps, c'est européen. Parce que en même temps, vous avez Walter Scott en Écosse, vous avez Goethe en Allemagne, vous avez Manzoni en Italie, vous avez Petőfi en Hongrie, vous avez Victor Hugo en France. C'est un mouvement d'un grand dynamisme et d'une grande unité.
Donc un mouvement aussi qui nous parle particulièrement. Vous avez dit que, vous me disiez tout à l'heure hors micro, que Musset avait inventé plein de choses, hein, finalement. Il est à l'origine. Vous me disiez, il a inventé le décalage, en quelque sorte.
Le décalage horaire.
L'attitude
oui,
décalée.
Parce que... Il nous apprend à vivre à travers les époques en étant en toute liberté. Le décalage horaire de l'histoire, c'est Musset qui l'a inventé. C'est lui qui a dit « Je suis né trop tard dans un monde trop vieux. Et une autre fois, il a dit, mais au fond, si j'avais vécu sous Henri IV, toutes mes débauches auraient été bien vues, tandis qu'aujourd'hui, c'est mal vu. Et aussi, il a inventé quelque chose d'autre, parce qu'il avait un coup de crayon extraordinaire.
On l'a vu avec l'autoportrait, là, tout à l'heure. Hein.
Que vous décriviez. Ouais. Delacroix, qui était son maître en dessin, a dit que s'il continuait à travailler, il serait un grand peintre. Eh bien, voilà ce qu'a inventé Musset. Encore pour une histoire d'amour, il aurait bien voulu être l'amant de Pauline Garcia après avoir fait un poème sur sa sœur, la cantatrice Maria Malibran. Et quand Pauline Garcia décide de se marier avec Viardot, eh bien, il est déçu. Alors, pour se foutre de sa gueule, puisqu'elle se marie, il va inventer la bande dessinée. Oui, c'est Musset qui a inventé la bande dessinée.
Moi, je pensais que c'était la telle du Conquest à Bayeux.
Non, non, la bande dessinée, c'est Musset, parce que c'est lui qui met les mots dans des bulles et les bulles dans des cadres à côté de ses dessins. Donc, il est l'inventeur. Alfred de Musset, de la bande dessinée.
Ça, voilà un scoop supplémentaire. Merci beaucoup, Gonzague, de nous en avoir fait profiter. Je reprends, vous savez, cette introduction qu'Aimé Dalton avait faite pour la série, la collection de cette extraordinaire correspondance dont elle a fait don en 1881 à la Bibliothèque nationale. Elle écrit, à la fin, c'est elle qui parle d'elle-même, elle parle d'elle-même comme Mademoiselle A, parce qu'elle ne veut bien sûr pas révéler son nom à l'époque. Le jour de l'enterrement d'Alfred de Musset, dit-elle, Mademoiselle A, se rendant à Paris en chemin de fer, pleurait silencieusement dans son coin. Quelqu'un, s'informant de la cause de ses larmes, elle s'écria « Mais monsieur, vous ne savez donc pas qu'Alfred de Musset est mort ?»
Oui, c'est une scène d'autant plus extraordinaire que ça se passe dans un train. Donc le romantisme, c'était aussi le train. Vous voyez, il y avait à la fois la modernité et le côté bucolique. Et en fait, que reste-t-il de Musset? Comme vous l'avez dit vous-même avec le titre de ses missions, il est complètement moderne, il est complètement contemporain. Parce que même s'il a été jalousé par les poètes maudits, il y a quand même eu des vacheries formidables. Flaubert traite Musset de coiffeur sentimental. Quant à Baudelaire, il dit c'est un croque-mort langoureux. Pour Flaubert, on peut le pardonner parce que on sait que la maîtresse de Flaubert, Louise Collet, était la maîtresse de Musset. Mais celui qui a dit la vraie vérité sur Musset, c'est Barbet de Revilly, parce que il a dit que c'est le génie le plus puissamment humain et le plus puissamment moderne qui ait jamais existé.
Merci beaucoup, Gonzague Saint-Brice, d'avoir été des nôtres et de nous avoir fait partager votre passion enflammée des romantiques. C'est une autre romantique qui nous rejoint. Là, la transition était toute donnée. Elle était facile.
Et elle me va parfaitement.
Mais je trouve
bien.
Qu'elle est vraie, oui. Bonjour, Faustine Bollard.
Bonjour, Franck. Et j'ai appris, en effet, que Alfred de Musset était donc à l'origine de la bande dessinée.
Bonjour,
et
Faustine.
Et ça, en effet, bonjour, Gonzague. Une émission passionnante aujourd'hui. Et nous, justement, puisque vous parliez de bande dessinée, une douce transition un peu éloignée. Mais aujourd'hui, on va parler des enfants. Comme tous les mercredis, et d'un phénomène qui a de plus en plus d'importance, à savoir la chirurgie esthétique. Quelles sont les raisons qui poussent nos enfants et nos ados à vouloir passer de plus en plus vite, de plus en plus tôt entre les mains d'un chirurgien? Quelles sont les pratiques les plus demandées? Est-ce que ce sont les seins, les fesses, le nez? À partir de quel âge peuvent-ils subir cette intervention? Faut-il toujours l'accord des parents? Seriez-vous prêt vous-même à autoriser votre enfant à se faire augmenter la poitrine, ou même réduire la poitrine si c'est un gros complexe? On ouvre le débat avec vous. Vous pouvez nous joindre, faustine.europe1. Ou sur la page Facebook de l'émission. On se retrouve juste dans une minute.
Exactement. Et à demain, cher Franck Ferrand, sur Europe 1, bien entendu.